Demain, le quart d'heure lyonnais, toute l'actualité chaque matin.
Parce que Lyon Demain se dessine aujourd'hui, voici l'essentiel de l'actualité. En ce mardi, nous sommes le 9 mars. 8 mois de prison ferme pour un jeune de 20 ans qui avait participé aux violences urbaines à la Duchère, c'était jeudi dernier. Le nombre de patients hospitalisés pour Covid-19 remonte avec 878 patients hospitalisés dans les établissements du Rhône. En réanimation, 166 patients, là aussi le chiffre est en progression. Un centre de vaccination municipale va ouvrir ce mardi au Centre culturel et de la vie associative, cours Émile Zola, à Villeurbanne. La vaccination doit débuter officiellement dans les pharmacies dès le 15 mars. L'Institut Mérieux annonce se porter acquéreur du pôle Ecotox situé dans la Drôme. Explication dans ce quart d'heure lyonnais. Connaissez-vous la SPV, la Société Protectrice des Végétaux ? Explication avec son fondateur Nicolas Taliu, que nous écouterons dans ce quart d'heure lyonnais. Et puis l'Olympique Lyonnais qui officialise une baisse des gros salaires du club.
Lyon demain, le quart d'heure lyonnais. Toute l'actualité chaque matin. Gérald de Bouchon.
Bonjour à tous et bienvenue dans ce quart d'heure lyonnais. 8 mois de prison ferme donc pour un jeune de 20 ans qui a participé aux violences urbaines à la Duchère. L'individu a été condamné en comparution immédiate avant d'être écroué. Il avait été arrêté jeudi dernier dans le quartier de la Duchère. Tout au long de l'audience, le prévenu a toutefois contesté son implication dans les affrontements qui avaient opposé ce soir-là les jeunes et la police. La police accusée par les habitants du quartier d'avoir été impliquée dans un accident de scooter la veille. Le conducteur de 13 ans avait été gravement blessé. Durant les échauffourées, 6 véhicules avaient été incendiés. De jeudi à samedi, la métropole a été agitée par plusieurs nuits de débordements urbains, en commençant par le quartier de la Duchère, ensuite à Bron et également à Rieux. 21 personnes au total ont été arrêtées, dont une majorité de mineurs.
Lyon demain, un site internet, du son, de l'image, un média complet pour les Lyonnais qui font avancer la ville.
Le nombre de patients hospitalisés pour Covid-19 remonte avec 878 patients hospitalisés dans les établissements du Rhône, 21 de plus en 24 heures, 56 nouveaux patients. En réanimation, 166 malades, plus 8, dont 17 nouveaux admis. Après 11 nouveaux décès, le nombre de patients décédés du Covid-19 à l'hôpital s'élève dans le Rhône à 2458 depuis le 1er mars 2020. En revanche, le taux d'incidence dans le Rhône continue de descendre, atteignant 231 pour 100 000, tout comme le taux de positivité descendu à 7%. La France a enregistré 359 décès supplémentaires à l'hôpital en 24 heures. Le nombre de patients soignés dans les services de réanimation ne cesse de progresser, 3800 personnes. La campagne de vaccination contre le Covid-19 s'est accélérée ce week-end. 585 000 patients ont été ainsi vaccinés. Les pharmacies qui seront en mesure de vacciner dès la semaine prochaine, le 15 mars, recevront leur première dose d'AstraZeneca jeudi ou vendredi. Un centre de vaccination municipale ouvre aujourd'hui au centre culturel à Villeurbanne. Initialement programmé au début du mois de février, son ouverture avait été repoussée en raison d'un manque de doses. À la demande de l'ARS, il accueillera dans un premier temps exclusivement sur rendez-vous les personnes dont la vaccination a été déprogrammée en février, faute de vaccins disponibles, ainsi que les plus de 75 ans orientés par des professionnels de santé en raison de leur état de santé fragile. Au démarrage, le centre sera ouvert du mardi au vendredi de 8h30 à 12h30, exclusivement sur rendez-vous. Il vaccinera environ 60 patients par jour en mars. Ce nombre correspond au nombre de doses de vaccins fournies à la ville. À terme, le centre de vaccination municipale sera en capacité de vacciner environ 600 personnes par jour. Les jours et horaires d'ouverture pourront être élargis. Le centre de Gerland n'a pas ouvert dimanche, faute de doses suffisantes. Dès que les livraisons monteront en charge, le centre de Gerland ouvrira 7 jours sur 7 en avril, normalement, précise la ville de Lyon. L'arrivée de 6000 doses supplémentaires vendredi a permis de vacciner samedi 3249 personnes dans 7 centres et dimanche 625 personnes dans 5 centres. La vaccination doit débuter officiellement dans les pharmacies dès le 15 mars, mais elle devrait débuter dès cette fin de semaine dans les pharmacies de 18 départements à la plus forte circulation épidémique. C'est le cas notamment pour la Drôme et le Rhône en Auvergne-Rhône-Alpes. Ces pharmacies vaccinant déjà contre la grippe doivent en effet recevoir un ou deux flacons de vaccin dès jeudi ou vendredi. Privés de commandes de vaccins, les médecins du Rhône, eux, crient leur colère. La Direction générale de la Santé évoque le nombre de doses livrées par AstraZeneca.
Lyon demain, La radio lyonnaise a écouté partout dans le monde.
L'Institut Mérieux se porte acquéreur du pôle Ecotox situé dans la Drôme avec l'ambition de le reconvertir en site de bioproduction industrielle. Inauguré par François Hollande en 2017, l'équipement alors labellisé plateforme mutualisée d'innovation et consacré à l'écotoxicologie était demeuré une coquille vide. L'achat apporté par l'Institut Mérieux est destiné à ABL, sa filiale à 100%, présente en France et aux États-Unis. ABL fait de la bioproduction pour des sociétés pharmaceutiques et biopharmaceutiques, en particulier de vecteurs viraux destinés à l'immunothérapie, voire à la vaccination. Objectif, soigner les cancers ou les maladies infectieuses. Une centaine d'emplois devraient être créés sur le site, un site qui pourrait être opérationnel en 2022. Nicolas Fafiotte, nommé président du village des créateurs, adhérent du village depuis la création de son entreprise, le célèbre couturier et créateur de robes de mariée et tenues de soirée, vient d'être nommé président par le conseil d'administration du village.
Lyon demain, Jardin Perché.
Connaissez-vous la SPV, la société protectrice des végétaux? La SPV est aux plantes ce que la SPA est aux animaux, indispensable pour celles et ceux qui veulent offrir une deuxième vie à leurs plantes. Rencontre avec Nicolas Taliu, son fondateur.
C'est une façon de repenser la consommation du végétal. C'est aussi une façon de ramener du végétal en ville. De mon parcours de paysagiste et de pépiniériste, il y a toujours eu un conflit entre la volonté de ramener des plantes dans le centre-ville et le fait de les produire à l'extérieur. Et là, j'ai eu le plaisir d'avoir une parcelle en intérieur et sur laquelle je me suis dit, en fait, peut-être que le meilleur moyen pour défendre la place du végétal, c'est de le ramener. Et donc, j'ai profité de cette parcelle-là pour ramener plein de végétaux.
Alors qu'on est la SPA, la SPV un petit peu moins, comment ça fonctionne? Quel est le service que vous rendez en fait?
C'est une façon de vraiment entretenir une relation avec un être vivant. J'ai toujours vu le végétal comme quelque chose de vivant. Ça fait toujours un peu rire quand on le dit et en même temps ça paraît avoir complètement du sens. Et du coup, pour être un peu plus fort dans cette action-là, c'est de responsabiliser les gens et ça passe par le soin. Donc c'est possible de m'amener une plante et de dire elle se porte pas bien, qu'est-ce que je dois faire docteur, comment est-ce que je la soigne? Et d'une façon, jusqu'à présent on consomme énormément comme un produit qui est inerte. On est dans une économie où on est de plus en plus en train de parler de recyclage, de seconde main, et en fait du coup ce que je propose c'est de faire la même chose avec du vivant en faisant des végétaux de seconde vie.
Donc par exemple on a des bureaux, on veut changer les plantes dans son bureau par exemple, une grande entreprise, on peut vous les ramener?
C'est ça, il est possible soit de me ramener les jardinières que je les dépote et que du coup je les remette comme ça, ou alors on peut faire une prestation carrément à domicile où je viens les récupérer, et puis vu que je récupère un végétal, je fidélise l'action et je la récompense par un avoir qui permet du coup de retoucher d'autres plantes, donc soit de seconde vie soit de première main, en disant vu que je sais où aller chercher les plantes qui sont encore propres, profiter du trajet quand je fais mes récupérations pour faire une commande et du coup remettre des nouvelles plantes sur la terrasse.
Parce que vous adressez aux particuliers mais aussi aux grossistes et aux pépiniéristes, hein, c'est ça?
Donc les particuliers peuvent me ramener des plantes, et je m'adresse beaucoup aux particuliers pour la revente. Par contre, dans les personnes qui m'amènent des plantes, il y a des entreprises de paysage d'intérieur, des entreprises de paysage, on va avoir les services communaux qui pour le moment sont encore en phase de réponse, tous les pépiniéristes bien sûr et les grossistes. En fait, la plante d'intérieur n'est pas produite en France. Donc aujourd'hui, c'est auprès des grossistes que je m'adresse. Mais par contre, ce que je sais, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui bouturent dans des appartements en France. Et donc, à la même façon qu'une exploitation agricole qui est très intensive, en fait, je propose que si chacun partage ses petites productions, en fait, on se retrouve avec la même production à l'échelle locale.
C'est une démarche un peu vertueuse, hein, finalement. C'est le circuit court de la plante?
Complètement. C'est exactement la valeur que j'essaie de défendre. J'essaye pas en fait, je vais y arriver.
Et pour les animaux, on sait que la valeur du conseil est importante. Je pense que pour les végétaux, c'est un peu pareil. Les gens aujourd'hui n'ont pas cette démarche de savoir ne serait-ce que le nom de leur plante?
Oui, donc ça fait pas longtemps qu'on est obligé de mettre des passeports phytosanitaires qui nous permettent de retracer tout l'historique de d'où vient la plante. Mais malheureusement, ce passeport pour moi est encore trop faible. On vous vend une plante en marquant un genre. Et en gros, c'est comme si on vous disait disait vous avez acheté une patate, mais vous savez pas si c'est une patate pour faire des frites ou une patate pour faire de la purée. Mais si on le fait pour les patates, il y a pas de raison qu'on le fasse pas pour les végétaux. Une plante de haie ou je pense qu'on a tous le souvenir d'avoir acheté des plantes où c'est marqué plante verte mixte. Oui, c'est bien, mais elles ont pas toutes les mêmes besoins. Et l'idée, c'est vraiment de se dire ici, vous êtes sûr d'avoir le conseil qui correspond à la plante, donc le terreau qui va être adapté et la façon dont elle va vous parler, les besoins qu'elle va avoir et comment est-ce qu'elle va les exprimer. Il y a toute une suite d'ateliers qui vont être animés. J'espère arriver à en faire un par semaine. Et l'idée, c'est vraiment de redonner, d'initier aux besoins de la plante.
C'est quoi votre idéal aujourd'hui?
Que la ville soit verte, que les balcons soient remplis de plantes et que ce qu'on est soit produit en local.
Nicolas Taillu, le fondateur de la Société Protectrice des Végétaux, qui est installée pour au moins un an sur la friche Jules Watz à Gerland, au cœur de la ZAC des Girondins.
Lyon demain, à la maison, au bureau, dans le bus, en voiture, avec CarPlay ou Android Auto. Lyon demain, accessible partout, même dans les tunnels.
L'Olympique Lyonnais officialise une baisse des gros salaires du club. En échange d'une baisse de 5 à 25% de leur salaire, des joueurs et joueuses de l'Olympique Lyonnais recevront des actions OL Group jusqu'en juin prochain. Le club se félicite d'une mesure novatrice permettant à l'ensemble des acteurs sportifs d'investir aux côtés de tous les actionnaires dans le projet OL Group. Un accord rendu nécessaire par le contexte économique très difficile compte tenu de la pandémie et de la baisse des revenus issus des droits télé. L'Olympique Lyonnais estime en effet à 111 millions d'euros les impacts directs et indirects de la crise. Le total des produits de ces activités a reculé de 37% au premier semestre. À l'issue de la rencontre entre Nice et Monaco, qui a vu la qualification du Rocher 2-0, le tirage au sort des huitièmes de finale de la Coupe de France a été effectué. Un tirage au sort qui a notamment offert un choc au sommet entre PSG et Lille. À noter également que l'Olympique Lyonnais se déplacera sur la pelouse du Red Star, pensionnaire de National 1 et tombeur de Lens en 16e de finale. En tennis, à Dubaï, Caroline Garcia passe avec brio le premier tour. La Lyonnaise, 47e, a éliminé Angélique Kerber, 26e joueuse mondiale. C'est la fin de ce quart d'heure lyonnais, merci de l'avoir suivi. On se retrouve bien sûr demain, même heure, même antenne. En attendant, portez-vous bien et soyez prudents.